que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien qui a préparé une chronique. Mais c'est plutôt de son accoutrement dont on va parler. Parce qu'hier, un inconnu m'écrit, une personne qui m'était jusqu'à ce moment-là inconnue, et il me dit, veux-tu que je t'envoie une vidéo du Sieur de Terrien qui sème du gazon avec des raquettes?
Hein?
De quoi me parle-t-il? Es-tu tombé sa tête, ce gars-là? C'est qui? Que se passe-t-il? Et il m'envoie effectivement une photo du Sieur de Terrien avec des raquettes à neige d'un pied en train de semer de la pelouse et un moustiquaire à sa tête. François, explique-nous ta méthode pour semer du gazon.
Ben, en fait, c'est que c'était des gros travaux parce que c'était au chalet. Puis l'année dernière, nous autres, on a fait construire un mur de protection parce que l'érosion des berges puis la montée des eaux, on sait ce que c'est. Là. Puis là, on était rendu là. D'ailleurs, toute Lens, on s'est fait construire un mur pour protéger nos terrains. Mais là, les terrains étaient dans un état lamentable.
Ah oui.
Alors, on a fait venir de la terre puis on sème du gazon. Alors, vendredi, il y a une pépine qui est venue puis qui a étendu toute cette terre-là. Puis là, hier, ben, c'était à nous autres de jouer, c'est-à-dire de semer le dit gazon.
Mais les raquettes?
Ben, c'est parce que...
C'est une raquette à neige, pas à terre.
Là, c'est ça.
Non, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon voisin était un peu en avance sur moi. Puis quand il semait son gazon, il calait en terre. C'est de la terre meuble là, qui vient d'être installée là. Alors là, il dit, prends mes raquettes. Il dit, essaye avec les raquettes, ça va pas mal mieux. Bon, je vais essayer avec les raquettes. Sauf que, à un moment donné, il a fallu que je marche dans terre, puis je calais pas tant que ça. Faut dire que mon voisin est quand même assez bien portant. Fait que lui, c'était plus compliqué un peu.
Quinte, oui.
Mais j'ai mis les raquettes, puis j'ai fait la job en raquettes, là.
Est-ce qu'on peut mettre ça sur, sur Facebook?
Il n'y a pas de problème.
Yes! Dans les prochaines minutes, sur le Facebook du 93, vous pourrez voir la méthode pour semer du gazon du Sieur de Terrien. Si vous avez jamais vu un gars, raquette à neige, semer de la pelouse avec un moustiquaire à sa tête, rendez-vous sur la page.
Et des raquettes d'un pied.
Et des raquettes d'un pied.
Mais le principe est bon, je trouve. C'est brillant. Ben oui. Parce que ça évite de faire des trous dans ta terre. Donc
En fait, après, il faut que tu repasses quand même un peu pour égaliser. Là, effectivement, au lieu de faire des espèces de traces de pas profondes.
Plus, pour un gars qui avait fabriqué une espèce de méthode révolutionnaire pour se couper les cheveux soi-même, c'est le genre de bidule ça, que tu dois aimer.
Oui,
ça. Tu dois reconnaître quand même... l'ingéniosité.
Oui, Vest, l'inventeur de la balayeuse à couper les cheveux, là.
Ben, exactement. Apparemment que ça avait déjà été fait avant, même dans un film, je pense, Wayne's World, je pense.
Ah oui?
Apparemment que
il y avait ça là-dedans.
Ah. Ben, je sais pas, je l'ai jamais vu, mais c'est ce qu'on m'a dit.
Ben, j'ai déjà vu le film, mais je me souviens pas de ça.
Moi non plus. François, si t'es là, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas nécessairement pour parler de ta méthode de plante
On va laisser ça à Marthe.
Oui, on va laisser ça à Marthe Laverdière. C'est plutôt parce qu'en fin de semaine, c'est un long congé. D'ailleurs, ça me permet de plugger qu'on est là demain matin avec vous pour une émission. Troisième émission que Québec se lève, puisque c'est la fête des patriotes de la reine de dollars. On a fait de même. On a de la misère à nommer cette fête-là. Pourquoi c'est si compliqué et pourquoi c'est la fête de trois fêtes en même temps?
Ben, et depuis quand?
Et voilà. Ben, en fait, c'est que c'est une fête qui, c'est une des premières fêtes, pas fériées, là, mais c'est un des premiers congé, je vous dirais, là, où on fête quelque chose de particulier. Au Québec, il y a eu la Saint-Jean-Baptiste qui est arrivée avant, mais la fête de la Reine au Canada, c'est arrivé quand même assez tôt, 1845. C'était pour fêter la fête de Victoria, qui était reine depuis 1837 et qui est née un 24 mai. Alors, puis 1845, là, on est quelques années après la révolte des Patriotes. Au Québec, ça a brassé pas mal. Il y a eu des combats armés, mais il y en a eu une aussi, une révolte des Patriotes dans le Haut-Canada qui a été pas mal plus douce, si vous me permettez l'expression, mais il y en a eu une quand même. Alors là, on voulait, du côté des autorités politiques, on voulait renforcer l'attachement de la population à l'Empire britannique et on a adopté en 1845 un projet de loi proclamant le 24 mai, date d'anniversaire de Victoria, un jour de fête. Mais c'est pas une fête qui a beaucoup de résonance, particulièrement dans le Bas-Canada francophone. Évidemment, la reine d'Angleterre, ça nous parle pas beaucoup. Et paradoxalement, c'est à une grand-mère canadienne résidente d'Hamilton que l'on doit notre fameux lundi de congé. Cette dame-là s'appelait Clementina Fessenden. Elle a convaincu l'école de sa localité d'organiser une fête pour valoriser l'appartenance du Canada à l'Empire britannique en 1898. C'est qu'à cette époque-là, on fêtait la fête de la reine, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas un congé férié, première des choses, puis c'était pas un grand événement. Et l'année avant 1898, donc 1897, ouais, c'était le jubilé de diamant. Donc, les 60 ans de l'accession au trône de la reine Victoria.
Ben oui, Vez s'en rappelle.
Oh, oh, oui, absolument, tout à fait.
Il était dans le comité organisateur.
Exactement, oui, c'est ça, exact.
Puis, ça y a donné cette idée-là à cette dame-là. Et cette initiative citoyenne est tombée dans l'œil du ministre de l'Éducation de l'Ontario à l'époque, qui, lui, cherchait désespérément un moyen de marquer la différence entre le Canada et les États-Unis. Parce qu'à cette époque-là, la révolution américaine a déjà plus de 100 ans. Mais les liens entre les deux pays sont pas très, très forts. Puis une guerre entre le Canada et les États-Unis, ça se pouvait encore à la fin du 19e siècle. Alors lui, il veut trouver une différence. Puis il a vu cette idée-là, il a dit, c'est parfait. Alors, ils ont créé l'Empire Day. Il se tenait la veille de la fête de Victoria.
L'Empire Day. Ouais. Imagine-tu au Québec, aujourd'hui, on aurait la journée de l'Empire. Ça fait Star Wars un peu.
Mais ça a été fêté au Québec, ça aussi, dans ce temps-là. Donc, le 23 mai, avant la fête de la Reine, c'est célébré au Québec pour la première fois en 1899, comme en Ontario et en Nouvelle-Écosse. C'est une fête qui a rapidement gagné en popularité et par la bande attire la fête de la reine dans son sillage. C'est deux jours de fête où il y a des activités pour les petits et les grands. Alors, ça a une résonance auprès des gens. Et puis, on commence à fêter ces fêtes-là. Mais c'est toujours pas une fête, un jour férié, là. Et la popularité de l'Empire Day va décliner après la Première Guerre mondiale, principalement au Québec, qui digère mal la conscription. Parce qu'en 1917, malgré sa promesse, le gouvernement canadien enclenche la conscription. Et ça a pas passé au Québec, mais pas du tout. Au Canada anglais, c'est la Première Guerre mondiale a laissé des traces. Puis là, on commence à se demander, est-ce que c'est une si bonne chose que ça de célébrer l'Empire britannique? La journée de l'Empire Day va reconnaître un regain de vie au Canada anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ne sera plus célébrée après 1958. Elle va être remplacée par la journée du Commonwealth, qui se passe au mois de mars, mais qui passe pas mal inaperçu au Québec.
Ben, Empire Day puis journée du Commonwealth... On s'entend que ça souligne pas mal la même affaire, mais ça a changé de nom.
Ouais,
là,
c'est ça. C'est plus politiquement correct.
En fait, au moins, l'Empire, ça passe mal. Parfait, Commonwealth, c'est réglé.
Alors, depuis 1977, cette journée du Commonwealth se tient le deuxième lundi de mars dans tous les pays ayant la reine d'Angleterre comme chef d'État. Donc, nous, l'Australie, Nouvelle-Zélande et quelques autres. Ça m'amène à parler à l'émergence de la fête de dollars. L'affaire de la conscription en 1917 laisse de profondes traces, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants.
Et ça n'a rien à voir avec le dollar qui a la face de la reine dessus.
Non, c'est pas le même dollar du tout. Alors, dollar, le fameux dollar, c'est Adam Dollar Desormeaux qui a péri avec une poignée de compatriotes en 1660 alors qu'il combattait les Iroquois sur les rives de la rivière Outaouais dans le secteur de Carillon. Carillon, c'est en face de Hawkesbury en Ontario. Là. C'est dans ce coin.
Hawkesbury.
Ouais, dans ce coin-là que ça s'est passé. Cette bataille avait complètement sombré dans l'oubli avant que l'historien François-Xavier Garneau,
bien plus qu'un cégep,
voilà, ne la fasse revivre dans son histoire du Canada. Et le mythe de la bataille salvatrice de Ville-Marie, alors le nom de Montréal à l'époque, contre une invasion iroquoise, est l'œuvre d'un autre historien autour de 1860. Et le personnage prend de l'importance et on célèbre la bataille du Lonceau pour la première fois à Montréal en 1910, 250 ans après la dite bataille. Et là, avec l'affaire de la conscription, on s'est dit, pourquoi que la fête de la reine, ce serait pas la fête de dollars chez nous? Il me semble que ça aurait plus d'allure. Alors, il y a eu une commémoration en 1918 et celle de l'année suivante, donc 1919, voit l'érection d'un monument à la mémoire de dollars à l'endroit de la fameuse bataille du Lonceau. Et jusque dans les années 50, son sacrifice et celui de ses compagnons d'armes, c'est utilisé pour galvaniser la défense de la foi catholique et la spécificité des Canadiens français. Là. Le clergé voit ça d'un bon œil. C'est une bonne idée de fêter dollars. Ça nous rassemble autour de la foi catholique, entre autres.
OK, pas mal.
Mais comme la fête de l'Empire, cette célébration va mal vieillir et elle commence à décliner à partir du milieu des années 50. Or, le paradoxe, c'est que la fête de la Reine et par ricochet, la fête de dollars, va devenir une journée fériée en 1952. C'est traditionnellement fêté le 24 mai, mais le jour de l'anniversaire de Victoria. Mais là, à partir de ce moment-là, le gouvernement libéral de Louis Saint-Laurent décide que ça va se tenir le lundi précédant le 24 mai. Parce qu'on veut faire une longue fin de semaine, une journée fériée, une fin de semaine de 3 jours. Alors, le lundi qui précède le 24 mai, donc demain, on est le 23, c'est le lundi qui précède le 24 mai.
Oui, il y avait dit en 1952, c'est parce qu'on veut qu'il y ait 3 émissions de Que Québec se lève. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la raison qu'il avait donnée. Hein?
Ouais, c'est ça, oui. C'est enfoui dans le projet de loi. Là. Ouais, ouais, quand on fouille, on le voit. Oui. Là. Alors, donc, c'est comme ça qu'est née la longue fin de semaine de la fête de la Reine, slash fête de dollars, slash fête des patriotes. Mais Dollar, il a pas survécu à ce congé férié-là, lui. Parce que au fur et à mesure...
Il est trop fêté.
Ben,
au parc Victoria.
Ben,
Victoria, bien sûr.
Victoria, la fête de la reine en question. En tout cas, bref, voilà. Tout est dans tout.
Parce que là, à un moment donné, la légende de Dollar va s'étioler. Le souvenir des patriotes de 1837-38 va reprendre vie au Québec. Cette révolte qui a duré environ un an s'est déroulée principalement dans la vallée du Richelieu et en périphérie de Montréal. D'abord, un mouvement politique, le Parti patriote, dirigé par Louis-Joseph Papineau, bascule dans la lutte armée. La plupart des dirigeants rebelles vont être tués au combat ou pendus par les Britanniques, mais il y en a quelques-uns, dont Papineau, qui se sont exilés aux États-Unis. Les premières commémorations de cet événement-là auraient eu lieu à Saint-Denis-de-Richelieu en 1937, donc 100 ans après la seule bataille gagnée par les rebelles qui s'était déroulée à Saint-Denis-du-Richelieu, à cet endroit-là. Et les commémorations vont devenir plus fréquentes à partir de 1962, 125e anniversaire des événements. Et c'est à ce moment-là que le nom de Jean-Olivier Chénier, qui était un leader rebelle qui a été tué lors de la bataille de Saint-Eustache, va émerger parmi ceux cités comme étant les plus grands héros canadiens français. On suggère même d'ajouter son nom à la fête de Dollar pour l'appeler la fête de Dollar et Chénier. Finalement, l'idée, ça va prendre du temps avant qu'elle fasse son chemin, mais en 1982, le gouvernement du Québec va promulguer la Journée des Patriotes qui doit se tenir le dimanche, le plus près du 23 mai. Alors, à cette époque-là, là, on parlait pas de remplacer la fête des Patriotes, okay, la fête de la Reine par la fête des Patriotes, mais de faire ça un dimanche, une journée distincte. Puis 20 ans plus tard, le premier ministre Bernard Landry va décréter la création de la Journée nationale des Patriotes qui prend la place de la fête de Dollar à compter de 2003. Alors, c'est pour ça que la fête de la Reine au Québec est devenue la fête de Dollar, qui est finalement devenue la fête des Patriotes.
Et voilà, CQFD.
Alors, il n'y en a plus trois, il y en a juste deux, finalement. La fête de Dollar, ça n'existe plus.
Non, elle a été remplacée par la fête des Patriotes. Okay. Puis l'Empire Day, lui, il a sombré dans l'oubli, puis c'est devenu la journée du Commonwealth, qui tient une journée, un lundi...
Puis qui a semblé dans le...
Ouais, c'est ça, random, comme on dirait
vous
en bon latin.
Vous pensiez que c'était compliqué, la fête de la Reine, la fête de Dollar, la fête des Patriotes, ben, sachez, vous l'aurez appris à Que Québec se lève, il y a aussi l'Empire Day, la journée du Commonwealth. Quinte, oui, 5 affaires en même temps. Le Sieur de Terrien, merci.
Je peux vous donner une suggestion de lecture?
Oui.
Il y a un très bon livre qui est sorti, c'est un essai de Joël Béliveau et Marcel Martel, ça s'appelle « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales de 1834 à 1982 ». C'est publié chez Boréal. Ça parle de la fameuse fête Reine, Empire Day, Dollar et Patriote. Mais ça parle aussi de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la journée de la Confédération, etc. C'est un très bon livre. Je vous le conseille si le sujet vous a intéressé et que vous voulez approfondir.
Merci François.